Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Charlène Payan. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, nous sommes en compagnie de Pauline Delumeau. Bonjour.
Bonjour.
Toutes deux, vous êtes coordinatrices d'une soirée de soutien qui sera proposée ce 12 décembre à partir de 17h. Ça sera à l'avant-poste rue Notre-Dame à Die. Et donc, pour cela, c'est consacré à une soirée de soutien aux femmes et enfants sur les routes de l'exil à Calais et Dunkerque, avec une exposition de photos et de dessins, des témoignages aussi. Il y aura un repas sur place et puis Didi Globule qui nous prêtera sa prestation sur le son de la veine. On écoutera d'ailleurs un morceau qui clôtera cette émission. Et donc, c'est une exposition qui est ouverte le 13 décembre également. Ça sera donc le samedi après-midi, je crois. Et ça sera de 9h à 15h aux heures du marché.
Tout à fait, merci Yves.
Alors pour vous, cette soirée de soutien, quelle importance revêt-elle à vos yeux ?
Pour l'association Refugee Women Center, donc on est des anciennes bénévoles, comme vous l'avez dit, et on co-organise ensemble, avec Charlène qui est habitante à Die, une soirée de soutien, et les fonds iront directement à l'association. Ça permet notamment d'acheter donc du matériel avec un soutien matériel, donc des tentes, des sacs de couchage, des couvertures, un soutien psychosocial, puisqu'il y a besoin aussi parfois de pouvoir avoir accès à un service qui est lié aux soins de santé sexuelle ou reproductive ou soins psychologiques, des mises à l'abri et un accès aux douches. Donc on a relativement besoin de dons souvent pour pouvoir avoir accès à soins matériels et soins psychosociaux.
Avant de continuer, on peut peut-être présenter aussi cette association, donc Refugees Women Centre, une association française qui est née en 2015,
ouais,
à Grande-Synthe. Hein. Voilà, suite à ce flux de réfugiés hein, qui se sont établis aux alentours de Calais et Dunkerque notamment. Et donc, il y a eu cette continuité avec une association française enregistrée. Donc, en avril 2017, vous en faisiez partie, toutes deux.
Je n'ai pas été bénévole à Refugees Women Center. J'ai été contactée par une des anciennes bénévoles, qui est une de mes amies, et qui nous a proposé d'organiser une exposition. Et de là est né cet événement. Et donc, je suis juste une référente locale pour que toutes les quatre, Juliette, Pauline, Sandrine et moi, puissions organiser cet événement ici.
Alors, sur les débuts de Refugee Women Center, moi, je pense que je n'aurais pas du tout tout l'historique. J'ai été bénévole, en fait, cette année, sur environ 4 mois sur Calais et Dunkerque, parce qu'on travaille sur les deux terrains, comme vous l'avez dit. L'association, effectivement, en fait, vient au soutien aux femmes et aux familles exilées qui vivent dans des camps informels à Calais et à Dunkerque, qui sont bloqués en fait au niveau de la frontière. Et nous, on les soutient pour plus de dignité humaine. En gros, l'idée, c'est de pouvoir leur donner, comme j'ai dit, ouais, accès à des douches, pouvoir dormir quelques jours au moins à l'abri, ou pouvoir au moins être sécurisé avec des tentes, même si on ne sécurise rien du tout avec des tentes. Mais en tout cas, les mettre au chaud, là, c'est pallier un service étatique qui n'existe pas toujours.
On peut peut-être décrire ce qu'est un camp informel. De quoi est-il constitué ?
Un camp informel, dans l'imaginaire collectif, souvent, on avait la jungle de Calais, hein, qui était quand même une grosse jungle avec plusieurs, je ne sais plus combien étaient les chiffres, mais en tout cas, à mon avis, plus de 500 personnes qui étaient établies. La jungle a été effectivement démantelée, comme tout le monde le sait. Là, les campements, on est plutôt sur des campements informels. Donc à Calais, ça va être des petits campements. Moi, je ne sais jamais le nombre de personnes qu'il y a, donc je ne pourrais absolument pas donner de chiffres, mais des personnes qui vont s'établir un certain temps à Calais, à Dunkerque, là, à Grande-Synthe, on va être sur un camp qui est un peu plus conséquent. par rapport à Calais où c'est des petits camps. Donc ça va être des personnes qui vont s'installer avec les tentes, puisqu'il y a plusieurs associations qui distribuent des tentes. On n'est pas les seuls, la seule association à distribuer des tentes. Il y a plusieurs associations qui effectuent aussi des actions à Calais et à Dunkerque. Et donc ça va être bah, des tentes, beaucoup de boue l'hiver parce que il pleut. Plutôt des camps, on va imaginer ça plutôt sale, des déchets. Et avec ça, donc il y a des enfants, des familles, des mères, des sœurs qui vivent là avec aussi des hommes. Nous, on n'est pas en contact avec les hommes, mais d'autres associations, en tout cas, travaillent avec les hommes.
Vous avez donc exercé en tant que bénévole hein, sur ce lieu. Comment décrire une journée pour vous d'activité sur ces camps informels et quelles étaient vos occupations auprès de ces personnes?
Alors, ce qu'on fait, donc, on travaille sur les deux terrains, Calais et Dunkerque. Souvent, les journées, elles sont assez différentes parce qu'on est sur un contexte d'urgence. Donc, il peut y avoir des moments d'ajustement toujours dans la journée. On va commencer le matin avec à l'entrepôt. Donc, l'entrepôt, ce qu'on appelle nous à Calais, la warehouse, là où il y a plusieurs associations, en tout cas, qui se regroupent pour pouvoir travailler et qui ont leur stockage de matériel. Ça va être donc il y aura aussi Women Center, Utopia qui est plus connu à l'échelle nationale, Woodyard qui coupera du bois, etc. Donc il y a plusieurs associations. Nous, on va chercher à l'entrepôt nos stocks de vêtements pour pouvoir le distribuer sur site. Donc ça va être soit à Calais, soit à Dunkerque. Et ensuite, l'après-midi, ça va être différent. À Calais, il va y avoir par exemple des maraudes, donc aller dans les camps informels pour voir si des femmes ont besoin, par exemple, de ce qu'on appelle de bedding. Donc, de sacs de couchage, de tentes, ou alors peut-être un accès à un médecin, voir un médecin, voir un gynéco, etc. On va aussi leur proposer des douches. Donc, à Dunkerque, comme il n'y a pas de service étatique qui propose des douches, on va prendre notre camion. Donc, c'est un petit trafic de 9 places, et on va proposer aux dames d'aller prendre des douches. Donc, ça va être toute une journée, des douches, et ensuite distribution de bedding. Il va y avoir aussi un free shop, ce qu'on appelle free shop, donc distribution de vêtements là près de à côté d'une église, dans une église en tout cas qu'on nous prête à Dunkerque et à Calais, ça va être au Secours catholique. Donc ça, c'est des accueils de jour qu'on a aussi à disposition pour les femmes.
Alors, ces zones de camps informels hein, à la frontière franco-britannique, où sont situés ces camps informels?
Les camps informels, bah, généralement, ils sont. Ça va être au bord d'une route, enfin, au bord d'une route à Dunkerque, quand on passe le pont vers Auchan, on voit les camps. Les camps sont totalement visibles puisqu'il y a très peu de forêt. Par exemple, la mairie de Calais a rasé énormément de forêt et pose des cailloux pour pas que les gens s'installent. Mais les camps informels, on les voit, les gens savent qu'ils existent. Il y a quelques arbres autour. Mais c'est visible, si vous allez à Dunkerque, vous voyez les camps, si vous prenez la route.
Et donc, tout comme Juliette et Sandrine, vous avez participé en tant que bénévole à prêter la main hein, pour cette organisation. Et depuis, vous avez pris un peu de recul ou alors vous vous consacrez sur d'autres activités?
Alors, chacune fait des activités différentes. Après, moi, je suis allée à Calais en janvier, février, et je suis revenue en octobre, novembre. Après, effectivement, moi, j'ai des activités différentes et je prends de la distance. Enfin, de la distance, je ne sais même pas si je prends de la distance, mais en tout cas, maintenant, le sujet des migrations, ou en tout cas du non-accueil en France, c'est un sujet qui m'interpelle. Et je suis allée également à Briançon, au refuge solidaire qui accueille aussi des personnes, à la frontière italienne. Des personnes exilées, donc c'est un accueil de 3 jours. Il y a toujours des ponts à faire avec des structures où on peut aller, qui ont aussi besoin de bénévoles et d'argent. C'est des enjeux en tout cas qui se recoupent et qui sont assez importants aujourd'hui en France, j'imagine.
Charlène, donc, en quelque sorte, vous prenez le flambeau hein, sur le Diois pour prolonger un peu ce soutien. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura comme exposition de photographie et dessins?
Alors, parmi les bénévoles qui sont à l'association ou qui ont été à l'association, il y a Sandrine et Juliette qui ont pu soit raconter sous forme de témoignages photos ou soit raconter aussi leur ressenti de ce que peuvent vivre les personnes en situation d'exil. Elles ont pu, voilà, au travers de leurs dessins et de leurs photos, exprimer ça et elles ont eu envie de le représenter sous la forme d'une exposition. Et donc, c'est de là qu'est né ce projet d'événement. Et donc, on s'est donné deux objectifs principaux qui sont récolter des fonds, comme on a pu le dire, mais aussi permettre à des personnes du Diwa de s'informer de la situation de ces mères, de ces familles à Calais et Dunkerque. Et donc, pour ça, on a les expositions qui permettent de montrer la situation de ces personnes et aussi le temps du témoignage, puisque, comme Pauline le fait maintenant à la radio, Sandrine, Juliette et aussi sûrement d'autres bénévoles qui seront présentes seront là pour échanger et on prévoit un petit temps de questions-réponses, puisque pour nous qui avons envie de nous informer sur la situation de la frontière du nord de la France, on a la possibilité d'avoir ces personnes qui étaient il y a très peu de temps finalement en soutien à Calais et Dunkerque.
Je reviens un peu sur cette notion d'exil, hein, puisque depuis le début, on sent que ce sont des personnes qui souhaitent s'installer en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est toujours le cas, même si les conditions se sont beaucoup plus endurcies, hein, pour cet accès? Est-ce qu'il y a toujours cette volonté de ces personnes de se rendre en Angleterre?
C'est vrai que pour nous, sur le terrain, là, il nous faudrait peut-être plus de données pour que je puisse répondre. Après, en tout cas, ce qu'on voit, c'est effectivement les personnes ont toujours envie de traverser, ou en tout cas, toutes les personnes qu'on rencontre ont envie d'avoir une vie meilleure, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne. Mais il est vrai que la plupart du temps, les personnes vont en Grande-Bretagne, puisque comme la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, il n'y a plus l'accord Dublin. Donc ça veut dire que les personnes ne sont plus renvoyées dans le premier pays par lequel elles arrivent et elles posent leurs empreintes. Puisqu'il n'y a plus cet accord-là, les personnes peuvent rester en Grande-Bretagne. Ça ne veut pas dire que l'accueil est mieux qu'en France, effectivement, comme vous l'avez dit. Mais les personnes cherchent toujours, en tout cas, à avoir un accueil et une vie meilleure quelque part.
Mais au moment où vous étiez bénévole, est-ce qu'il y a aussi ce problème de la langue, hein? Il faut pouvoir aussi comprendre le discours de tous. Comment s'organiser justement cette possibilité de se comprendre?
Alors déjà, entre nous, dans l'association Women Center, tout le monde parle anglais, parce que c'est une association qui accueille des personnes internationales. Les bénévoles sont de tous les pays, donc il y a des personnes qui viennent d'Australie, des États-Unis, du Mexique, d'Irlande, etc. Et au sein des personnes qui sont en situation d'exil, ça dépend en fait. Le contexte est tellement changeant. Enfin, je peux vous dire quelque chose qui était vrai hier et qui ne l'est plus aujourd'hui. Moi, quand j'étais en tout cas en début d'année 2025, les personnes parlaient beaucoup moins bien anglais qu'actuellement. Moi, quand j'ai rencontré des personnes là en octobre et en novembre, les personnes parlaient très bien anglais. Donc, il y a rarement des difficultés, je dirais pas rarement, en tout cas, il y a des personnes qui parlent anglais où c'est facile de pouvoir communiquer avec elles. Alors, effectivement, il y aura toujours de la barrière, peut-être des mots qu'on ne comprend pas toujours, mais pour les personnes qui ne peuvent pas nous comprendre, on utilise soit Google Traduction sur nos téléphones, soit on fait appel à un traducteur en direct, donc une personne, on appelle un numéro spécial, et les personnes ont ensuite... On a directement une personne qui va nous parler en somali ou en une autre langue si on a besoin, quoi.
Charlène, vous-même, je parle de cet engagement sur le territoire ici. Qu'est-ce que vous proposez en plus de cette soirée de soutien?
Alors, pas du tout. C'est vraiment un événement très ponctuel sur lequel j'ai souhaité répondre à la demande d'une amie pour l'organisation de cet événement. Et voilà.
Pauline, ces témoignages qu'il y aura pour cette soirée à partir de 18h, ce sera ceux de Juliette et de Sandrine avec vous?
Alors, à 18h, c'est les témoignages des anciennes bénévoles qui, enfin, on va pouvoir en tout cas témoigner de nos expériences.
Donc, Sandrine aussi, Juliette et les autres personnes qui seront présentes, dont j'ai oublié le nom, mais il y a d'autres personnes finalement qui se sont ralliées à l'événement et qui sont des anciennes bénévoles de l'association.
Clémentine et Margot.
Et qu'est-ce qui vous tient à cœur de témoigner justement? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ces témoignages que vous aurez à donner ce soir-là?
Bah, ça va dépendre des questions qu'on aura, j'imagine, et de ce que les personnes veulent savoir. Après, l'idée, ça va aussi être de montrer ce qu'est, ce que ça fait d'être bénévole à la frontière franco-britannique et que les personnes aussi qu'on soutient, ce ne sont pas des personnes qui sont une masse invisible. C'est aussi de rendre visible, et ça, c'est à travers les photos de Sandrine et les dessins de Juliette que ça se fera. Mais l'idée, ça va être aussi de présenter, nous, en tant qu'ancienne bénévole, notre point de vue et ce qu'on faisait à Calais et Dunkerque.
Et il y a aussi certainement le contexte avec des forces de l'ordre autour, peut-être pour canaliser les populations ou les retenir.
Alors moi, je n'aurais pas utilisé le mot canaliser les populations ou les retenir. En fait, ils canalisent pas les populations puisque les personnes sont dans les camps informels et souhaitent uniquement partir, en tout cas, ou rester pour demander l'exil en France. Elles sont généralement dans les campements informels. En tout cas, nous, les personnes qu'on suit, sont absolument pas des personnes violentes comme on peut voir dans les médias, ou en tout cas, je pense qu'il y aurait beaucoup de préjugés à débunker là-dessus. Et des forces de l'ordre, oui, effectivement. Là, c'est vrai qu'on voit beaucoup de CRS à Calais et Dunkerque. Après, bon, bah, on est dans un environnement en ce moment et un contexte où on met de plus en plus, en tout cas ça c'est juste mon avis, l'État est de plus en plus répressif. Et à la frontière, en tout cas, nous on voit effectivement beaucoup de CRS. Il y a des expulsions qui se font par exemple tous les 2 jours à Calais. Donc une expulsion, ça veut dire les CRS arrivent, donc plusieurs camions, et là il y a une action d'expulsion. Donc on prend les tentes, les sacs de couchage de toutes les personnes. Et on les retire. À Dunkerque, c'est aussi de plus en plus souvent les expulsions. Avant, c'était tous les 15 jours. Là, je crois que c'est plus que. Enfin, en tout cas, c'est de plus en plus.
Et par-dessus ça, il y a les médias. Quelle est leur présence aux alentours de ces camps?
Moi, j'ai aucune idée à
Non.
propos des médias. Non.
D'accord. À l'époque où vous étiez présente, est-ce qu'il y avait des moyens de médiatiques pour tenir un peu informé le public?
Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a souvent effectivement des médias indépendants ou même des médias, enfin France 3 local qui vient sur le terrain. Bah après, en tout cas, vous pouvez regarder sur Arte, il y a un reportage qui est sorti cette année sur les actions de Refugee Women Center. Et c'est souvent effectivement qu'on voit des journalistes à la warehouse, donc dans l'entrepôt à Calais. Mais je sais pas, enfin je sais pas comment tous relayent l'information. Et après, j'imagine effectivement ça dépend sûrement quel média.
Et aussi, les conditions physiques, j'imagine qu'il faut être plutôt bien portant, plutôt jeune aussi pour cette intensité en émotion et en activité. Est-ce qu'il y a sans cesse un renouvellement de bénévoles au sein de ces structures pour pouvoir faire face?
Oui, alors les structures, je sais pas, je connais pas le minimum à chaque fois pour toutes les structures pour pouvoir être bénévole. En tout cas, à Women Center, c'est 2 mois minimum et il n'y a pas de restriction d'âge. Donc, il y a des bénévoles. Moi, quand j'y étais là en octobre-novembre, donc faut avoir minimum 21 ans. Et puis, il y avait des personnes avec nous qui travaillaient qui avaient environ 70 ans. Donc, non, tout le monde est bienvenu pour pouvoir aider et tout, justement, tout le monde a des compétences différentes et c'est ça qui fait aussi la richesse des bénévoles à Women Center.
Mais émotionnellement, c'est assez dur à assumer également.
Bah là, je vais parler pour ma part. C'est vrai que la première fois que je suis arrivée dans un camp, c'est effectivement difficile de voir les gens qui vivent dans des conditions qui sont absolument pas dignes. Et c'est très difficile de voir des personnes qui n'ont pas accès à un hébergement, qui ne peuvent pas se chauffer, qui ne peuvent pas manger, qui ne sont tout simplement pas accueillies. Donc effectivement, c'est très compliqué. Après, on voit aussi des enfants et des bébés qui naissent en France. Heureusement, donc les personnes peuvent avoir accès à un soin, mais après, derrière, elles retournent aussi dans les camps. Ça va être dormir sur le sol et au froid. Donc ça, c'est très compliqué, effectivement, quand on le voit au début. Après, on a aussi, au sein de Women Center et d'autres associations, il y a des groupes de parole qui sont mis en place, c'est-à-dire nous, entre nous, comment on fait pour aussi se soutenir et ne pas accepter ce qui se passe tout en mettant une distance pour se protéger.
Charlène, donc vous vous êtes attelée vous-même peut-être plutôt aussi à organiser cette soirée hein, au
Ouais.
sein de l'avant-poste. Une volonté aussi de faire connaître un peu cette situation sur le Diwa.
Ouais, bien sûr. Effectivement, quand Sandrine m'a parlé de son projet, je l'ai tout de suite bien accueilli et on s'est dit qu'on pouvait faire grossir un petit peu l'événement qui était à la base une exposition photo pour prendre plus de temps pour pouvoir échanger. Et puis Sandrine, du coup, a eu l'envie d'inviter d'autres bénévoles de Refugees Women Center. De mon côté, j'ai pu contacter des associations locales, je pense notamment à la TRAM, qui accompagne administrativement et socialement des personnes exilées et en situation de précarité dans le Diwa. Pour justement qu'ils puissent être représentés aussi pendant cette soirée. Voilà, et du coup, on est en contact avec d'autres associations locales qui pourraient vouloir se représenter aussi sur cet événement et qui a une action en faveur des personnes exilées, soit à la frontière nord de la France, ou soit sur notre territoire ou les territoires voisins.
L'association Redar, est-ce que vous avez un contact avec celle-ci qui vous serait de bons conseils peut-être aussi pour mener à bien ces opérations de soutien?
Alors, je leur ai envoyé le lien pour les inviter à l'événement. J'ai essayé de rentrer en contact. J'ai pas eu l'occasion au moment où j'ai pu le prendre sur mon temps perso, quoi. Et c'est rigolo parce que j'ai été bénévole dans cette association pour accompagner il y a 5-6 ans des personnes qui venaient d'où venaient.
Siri.
Oui, elle venait de Syrie et donc c'était un accompagnement scolaire pour faire du rattrapage et pour que la personne puisse passer son bac en France, quoi.
Pauline, est-ce que vous pouvez témoigner aussi de quoi sont constituées ces journées pour ces femmes et ces enfants exilés? Est-ce qu'il y a des lieux de pouvoir se recentrer, se rencontrer, ou d'enseigner peut-être, d'apprendre également?
Généralement, quand les personnes sont dans les camps, il n'y a strictement rien à faire à part attendre. Donc, ce sont les associations aussi qui permettent d'apprendre. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Project Play qui est en contact avec les enfants. Donc, elles peuvent, par exemple, si les enfants en ont besoin, de donner des devoirs aux enfants. Donc les enfants, pendant le temps d'attente et pendant le temps, en tout cas, de la situation d'exil, ne vont pas à l'école. Mais il y a des associations qui sont là aussi pour pouvoir pallier ça. Alors, elles ne vont pas le faire comme peut le faire un État, puisqu'on a les moyens qu'on a quand on est une association, donc c'est-à-dire peu de moyens. Et elles proposent tout de même ça. Ensuite, là où elles vont se rencontrer, les femmes, ça va être nous, nos accueils de jour. Donc à Dunkerque, ça va être l'accueil de jour qu'on leur propose 2 fois par semaine, et enfin 3 fois par semaine. Et à Calais, ça va être un accueil de jour que propose le Secours catholique. Donc là, ça va être les seuls endroits où les personnes vont pouvoir se retrouver. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je les connais Peut-être pas, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête moi.
Et puis, je continue sur cette soirée hein, avec une tartiflette végétarienne.
C'est nous qui faisons à manger pour la soirée.
D'accord.
Et on prépare un petit peu en avance. Et voilà, on aura une cinquantaine de parts à distribuer. Donc, c'est pour ça qu'on propose aux gens qui peuvent être intéressés de réserver, soit au travers du lien Helloasso pour directement payer leur part de tartiflette, ou soit en contactant Sandrine directement, dont on a mis sûrement le numéro sur le flyer. Et voilà, l'objectif par ce moyen-là, c'est de pouvoir récolter des fonds. Tout en passant un moment convivial et en apportant du contenu.
La demande, celle de effectivement de d'argent peut-être pour répondre aux besoins, mais est-ce qu'il y a aussi des services qui permettent de prendre directement les vêtements ou des sacs ou du matériel de couchage?
C'est ça. Nous, on a besoin effectivement de dons financiers, mais de dons matériels. On ne propose pas, en tout cas, si des personnes veulent donner du don matériel, que ce soit effectivement sac de couchage, vêtements pour femmes, vêtements pour bébés, on a une liste qu'on peut envoyer, mais c'est aux citoyens et citoyennes de s'organiser entre elles et de pouvoir ensuite envoyer le matériel à Calais, puisque nous, on n'a pas assez de bénévoles pour pouvoir le faire.
Ce type d'organisation, de soirées de soutien, est-ce qu'elles sont plutôt courantes?
Au sein de Refugee Women Center, c'est ça?
Oui, enfin, ou d'autres structures qui se portent en aide aussi pour subvenir.
Alors, au sein de Refugee Women Center, là, cette année, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont collecté des fonds. Donc, par exemple, il y a une personne qui a collecté des fonds en marchant. Alors, je ne sais plus d'où elle est partie, mais en tout cas, c'est plus d'une centaine de kilomètres. Il y a des personnes aussi qui ont fait un tour à vélo, qui ont collecté des fonds. Donc, on a réussi à collecter suffisamment d'argent pour pouvoir avoir, par exemple, quatre mois. Bon, attends, je vais peut-être pas donner des chiffres parce qu'en fait, si je me trompe, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a pu réussir à collecter de l'argent par rapport à ça. Et d'autres associations, effectivement, il y a aussi des personnes qui mettent en place des actions, mais c'est toujours des actions d'anciens ou d'anciennes bénévoles. Ce n'est pas des actions que portent les associations parce qu'elles ne vont pas avoir suffisamment de temps qui va être dédié à ça. Le temps sur le terrain est déjà trop précieux et pour pouvoir aller faire des actions de soutien de collègues comme nous on fait.
Il y aura donc cette soirée du 12 et le lendemain, le 13, vous serez présente vous-même pendant cette exposition ouverte de 9 h à 15 h.
On sera présentes toutes les quatre
Oui.
sur le marché et à l'avant-poste où on organise l'événement la veille. On laisse l'exposition en fait le lendemain et du coup les bénévoles sont toujours là pour répondre aux questions, échanger et permettre de voir l'expo.
Alors, pour participer à ce repas hein, de tartiflette, une réservation est conseillée. Alors, il y a le QR code hein, qu'on peut trouver sur le flyer. Il y a également un numéro de téléphone. Est-ce que c'est celui-ci?
Ouais, c'est celui de Sandrine et effectivement, on peut réserver par texto si on n'est pas fan des QR codes et du
Oui.
paiement par Internet. On peut juste dire que l'on souhaite réserver une part tartiflette et nous, ça nous permet d'estimer le nombre de personnes et le nombre de parts qu'on doit faire en avance, quoi.
Donc j'indique le numéro 06 48 85 89 65. Il y aura donc en clôture de cette soirée hein, jusqu'à 22 h, je crois, peut-être un peu au-delà, on ne sait jamais. DJ Globule qui proposera sa prestation et nous l'écouterons pour cette fin d'émission.
Ouais. On peut dire aussi qu'elle est partenaire de cet événement et on a oublié de préciser qu'évidemment, il y a aussi de quoi étancher sa soif. Et il y a d'autres petites choses que l'on va vendre pour pouvoir récolter des fonds, comme de la crème de marron, des cartes faites par justement la personne qui expose, Juliette, et sûrement de la vente de couvertures. Enfin bon, il faut venir voir pour voir tout ce qu'on aura à vendre. Même moi, je n'ai pas l'information de tout ce qu'on va amener.
Vous arrivez un petit peu, vous avancez un petit peu à l'aveuglette quand même. Hein. C'est ça aussi qui motive.
En disant qu'on a une base structurée et qu'autour, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées et, voilà, et dont chacune maîtrise de son côté. Puisque, comme on le dit, on est quatre personnes aux quatre coins de la France qui organisons cet événement et on se rejoint le jeudi pour le préparer juste avant l'événement.
Eh bien, je vous remercie en tout cas, Pauline Delumeau et Charline Payan, d'être venue sur RDWA pour nous parler donc de cette soirée de soutien aux femmes et enfants sur les routes de l'exil à Calais et Dunkerque. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, merci pour l'intérêt pour la cause et pour l'invitation.
Et puis, j'indiquerai sur la page de l'émission le site de Refugee Women's Centre pour découvrir un peu cette activité. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.